Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, nous allons aborder à présent notre deuxième thème de ces jours. On va parler de la création d'une ONG, organisation non gouvernementale. On parle aussi de ONG, organisation non gouvernementale de développement, SBL. Eh bien, il y a plusieurs organisations comme ça qui sont créées à l'initiative des Congolais à travers le pays. Et certaines organisations sont opérationnelles sur le plan local, d'autres sur le plan national. Cependant, il y a certains qui ne savent pas comment il faut procéder pour mettre en place une ONG. Alors, comment s'y prendre? Madame Brigitte Kanika est spécialiste en développement. Bonjour, madame.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la première question est de savoir, c'est quoi une organisation non gouvernementale de développement?
Merci beaucoup. Une organisation non gouvernementale, comme le nom l'indique, c'est tout simplement une organisation qui est mise en place par un groupe de personnes, mais qui n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est ce qu'on appelle l'organisation non gouvernementale. Et en RDC, on exige d'ajouter ASBL, c'est-à-dire Association sans but lucratif. Donc, je répète que c'est une organisation qui a été mise en place par un groupe de personnes pour résoudre un problème, mais qui n'a aucune connexion avec le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est pour cela qu'on l'appelle organisation non gouvernementale.
Et qui est une ASBL, donc qui n'est pas là pour faire des profits?
Non. Une ASBL n'est pas là pour faire des profits. On dit association sans but lucratif, c'est-à-dire une association qui ne se livre pas essentiellement à des opérations commerciales et qui est là non pas pour chercher de profit pour ses membres, mais il peut chercher des profits pour la communauté et non pour les personnes qui l'ont mise en place.
Alors, comment peut-on démarrer une ONG? Comment, par où faut-il commencer, si on peut le dire ainsi?
Pour commencer, il faudra d'abord qu'il y ait un problème qui s'est posé. Parce que une ONG est une réponse à deux problèmes. On le met en place pour aider la communauté à résoudre leurs problèmes. Ça peut être une communauté qui s'organise elle-même, un ASBL. C'est possible. Et en ce moment-là, on ne parle que d'une association. Mais si c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour venir en aide à une communauté qui a des problèmes, on peut appeler ça une communauté ou collectivité, c'est alors qu'on parle d'une ONG. Une ONG, c'est-à-dire que c'est une réponse qui est apportée
à un problème se pose dans la communauté.
Absolument. À un problème qui se pose dans la communauté, mais c'est un groupe de personnes qui prend l'idée et qui se met à la disposition d'une communauté. Donc, c'est différent d'une association où c'est un groupe de problèmes. D'abord, ce que je dois dire, c'est que toute ONG est avant tout une association.
D'accord.
Mais toute association n'est pas une ONG. Ça, c'est une grande différence. Pourquoi? Parce qu'une ONG, comme j'étais en train de le dire, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour résoudre un problème qui se pose dans une communauté, mais dont eux ne bénéficieront pas des actions qui seront mises en place. Tandis que pour une association, c'est un groupe de personnes qui se met en place pour résoudre leurs propres problèmes. Donc, c'est ça la grande différence.
Ok.
Oui, voilà.
Ok. Une ONG, c'est pour résoudre les problèmes de la communauté. Mais une association, c'est pour les intérêts des membres.
Oui, effectivement. C'est pour les intérêts des membres.
D'accord.
Ça peut être une communauté, mais les membres eux-mêmes sont les acteurs et les bénéficiaires directs des actions qui seront mises en place.
Alors, on retient que pour mettre en place une ONG, il faut partir d'un problème. Il faut qu'il y ait un problème qui se pose dans la communauté.
Absolument.
Et à partir de là, on arrive à... C'est quel genre de problème, par exemple?
Bon, c'est plus un problème qui touche une communauté. Donc, ce ne sont pas des problèmes individuels.
Je prends un exemple.
Oui. Je suis incapable de payer le frais scolaire pour mon enfant. C'est un problème qui se pose. Mais c'est un problème individuel qui n'affecte pas une communauté. Mais il peut arriver que dans une communauté, on remarque qu'il y a une grande pauvreté et que tous les parents sont incapables de scolariser leurs enfants. C'est un problème individuel, mais qui est général. Parce que c'est toute la communauté qui ressent ce problème.
Oui.
En ce moment-là, une ONG peut se dire que voilà, nous, on a l'expertise, nous, on sait comment on peut vous aider. On peut réfléchir ensemble pour que vous arriviez à résoudre votre problème. Tout comme la communauté elle-même peut réfléchir et se dire, ce problème, il est général à tous les membres de la communauté. Comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons conjuguer les efforts, mettre tous nos efforts ensemble pour arriver à résoudre ce problème.
Alors, qui a qualité de créer une ONG ou qui peut faire partie d'une ONG, la qualité des gens qui peuvent faire partie d'une ONG?
D'abord, il faudra que tout le monde puisse voir vers la même direction, c'est-à-dire avoir un but commun. C'est un élément primordial. Il faut que tous ceux qui pensent qu'ils veulent se mettre ensemble pour résoudre le problème, il faudra qu'ils regardent tous vers la même direction. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens se mettent ensemble pour chercher à résoudre un problème, mais chacun vient avec les agendas cachés. En ces moments-là, l'ONG ne peut pas aller loin. C'est comme ça qu'à partir du moment où l'ONG commence à émerger, on commence à avoir un peu de moyens, c'est la dissension, il y a tout le temps
des disputes,
parce qu'on n'a pas un objectif commun. Et donc, celui qui peut être membre d'une ONG ou d'une ASPL, c'est celui-là qui ressent le problème dans son intérieur et qui voudrait apporter des solutions ou contribuer à trouver des solutions pour ce problème.
On retient qu'il ne faut pas venir avec des agendas cachés.
Absolument, parce que ça ne marchera pas.
Oui.
Et malheureusement, en RDC ici, c'est le plus grand problème qu'on trouve. Et ce n'est pas seulement... Les agendas cachés. Tout le monde veut créer son ONG,
oui.
Tout le monde veut créer son ASBL, mais on ne sait pas pourquoi on le crée. On le crée parce que soi-même, on a un problème, on voudrait le résoudre,
mais on veut
le résoudre avec les autres. C'est ça les gros du problème.
Oui. Voilà, donc et maintenant, vous avez dit d'abord, il y a un problème, et puis les gens se réunissent pour mettre en place, créer une ONG.
Non, ils ne se mettent pas encore en place pour créer.
Oui.
Ils se mettent ensemble pour réfléchir. Comment on peut résoudre notre problème? Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas nécessairement qu'on crée une ONG. Mais il y a aussi des problèmes qui nécessitent absolument qu'on mette en place une organisation.
Alors, quel genre de problèmes nécessitent la création d'une ONG?
Ce sont, comme j'étais en train de le dire, ce sont des problèmes d'abord. Il faut que le problème soit un problème qui ne... S'il trouve la solution maintenant, le problème est résolu, on n'a pas besoin de créer... Non, on n'a pas besoin de mettre en place une organisation.
Oui.
Mais c'est plutôt des problèmes qu'on trouve qui sont récurrents, ou bien c'est plusieurs problèmes qui sont ensemble, qu'on voudrait résoudre, mais comme on ne peut pas résoudre le tout au même moment, on y va étape par étape. Alors, en ce moment-là, on met une organisation qui va aider à résoudre le problème.
D'accord. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Patient Paul nous appelle de Kinshasa et Doudou Kadima de Mbujima. Et vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-6394.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Bien, création, comment créer, quelle est la procédure à suivre pour créer une ONG, une organisation non gouvernementale. Patient Paul nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jordi, ainsi qu'à l'invité.
Quelle est votre question, Patient?
Voilà, selon les propos de l'invité, j'aimerais savoir donc quels sont les avantages d'une ONG et si ces avantages existent, il peut aussi avoir des inconvénients. Par exemple, elle peut nous donner, car beaucoup essaient un peu de commercialiser ces ONG-là en ASBL au Congo. Et puis la deuxième question de savoir, quel est le rôle d'une ONG dans un pays, car de nos jours, ces ONG-là s'entassent et se multiplient comme des champignons. Je prends l'exemple de ceux qui œuvrent dans la partie est du pays. Certaines ont laissé donc, ou soit ont oublié leur mission. Et se sont livrés donc aux exploitations de nos richesses. À notre invité, peut-on créer une ONG qui est pour venir en assistance aux démunis et en même temps, on a des agendas cachés comme elle venait de le soulever. La troisième et la dernière, si en Europe et Amérique, la création des ONG n'aura profité dans les anciennes années, mais ce n'est pas le cas en Afrique. Ici, il y a pluralisme donc de ces ONG, mais qui sont pauvres. Et cela les pousse à s'enrichir par le financement des guerres et l'exploitation des ressources, comme je viens de le dire. Quels sont les critères que doivent remplir un candidat pour créer donc une ONG? Et une ONG peut-elle se transformer en parti politique comme société civile? Voilà, c'est Patient Paul depuis Kinshasa, merci.
Bien, Doudou Kadima est à Mbujimayi, bonjour.
Oui, bonjour, je suis Daniel, bonjour aussi à l'ingénieur.
On vous écoute, Doudou.
Ok, d'abord, j'aimerais d'abord dire ceci. Madame a dit que les ONG n'ont rien à voir avec les hommes politiques. Non, c'est faux, mais ici, en Mbujimayi, il y a des hommes politiques qui dirigent les ONG. Mais là, la deuxième question est de savoir comment faire pour créer l'ONG. Ça, c'est ma deuxième question. Mais là, la troisième question est de savoir quel est le rôle d'un président ou d'un créateur de l'ONG. Parce que ici, il y a les Chinois qui ont créé leur ONG, je ne sais pas le nom, mais ils sont venus juste pour nous détruire nos minéraux et aller chez eux. C'est Doudou Kadima parti de Mbujimayi. Merci, bonne continuation.
Merci, Doudou. Benjamin Bizouri est à Bukavu, au sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à l'invité, bonjour à vous.
On vous écoute, Benjamin.
Oui, j'aimerais dire à l'entrée des jeux, parce que vous savez que dans des pays là où il y a des ONG, il y a toujours le problème, donc il y a toujours la guerre. La guerre ne finit jamais, parce que ces ONG luttent pour que qu'ils ne puissent pas mettre fin à leur mouvement. Ils veulent toujours continuer à pouvoir œuvrer dans ce pays. Est-ce que ne voyez-vous pas que ces ONG sont à la base de guerre dans un pays? Bon, j'aimerais poser des questions. Est-ce que le mutuel de santé est classé dans le groupe des ONG ou dans le groupe des associations? Parce que le mutuel de santé, je ne sais pas si on peut le classer dans quel groupe. Mais aussi, comme ici à Bukavu, les jeunes se sont mobilisés, les jeunes diplômés, intellectuels se sont mobilisés, ils se sont mis ensemble pour regarder comment est-ce qu'ils peuvent revendiquer leurs droits des emplois, parce qu'il y en a 5% des chômeurs au Congo. Et les intellectuels, surtout les diplômés universitaires, se sont réunis, dirent que non, ils peuvent un peu mettre pression et réclamer leurs droits d'emploi. Est-ce que ces gens qui se sont réunis, on peut leur mettre aussi, on peut leur classer dans le groupe des ONG ou dans le groupe des associations? Parce que jusque-là, ils n'ont pas de statut, ils sont pour mettre un peu pression au gouvernement. Ils sont classés dans quel groupe aussi, ONG ou association? J'ai dit et je vous remercie.
D'accord, merci. Madame Brigitte.
Merci beaucoup aux trois auditeurs. Pour répondre aux questions de mes patients à partir de Kinshasa, ils demandent quels sont les avantages d'une ONG. Comme j'ai eu à les dire d'entrée des jeux, une ONG n'a pas d'avantage. Ils travaillent pour le bien des autres. C'est d'abord ça. Moi, je peux dire, si on doit parler des avantages, c'est plutôt au niveau moral. Parce que quand vous intervenez pour alléger la souffrance de personnes, des autres personnes, cela veut dire qu'il y a l'avantage, mais c'est plutôt l'avantage moral, il n'y a pas d'avantage matériel. Ça, c'est en ce qui concerne les avantages d'une ONG. Par rapport au rôle, j'ai eu à dire ici que le rôle d'une ONG, c'est de soulager la misère des autres. Quand une ONG est là, quand je parle de la misère, ne regardons pas seulement le problème financier. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans nos communautés, et spécialement dans les communautés africaines. Et donc, quand les ONG se mettent en place, c'est pour aider ces communautés-là à résoudre leurs problèmes, avoir clair, avoir comment elles peuvent avancer. C'est ça la mission d'une ONG. Mmh. Et par rapport à la troisième question, où il a dit qu'en Europe et en Amérique, les ONG ont réussi, mais en Afrique, ça ne marche pas. je suis un peu sceptique parce qu'il ne faut pas généraliser. Il vous souviendrez que vers les années 80-90, quand on avait commencé avec le concept ONG, quand ça avait pris de l'ampleur, on a vu les actions qui étaient menées. Et ce que je veux dire, c'est que les ONG sont là. Là où vous voyez qu'il y a beaucoup d'ONG, c'est qu'il y a un problème qui se pose au niveau du gouvernement parce que la mission première de gouvernement, c'est de résoudre, d'aider les populations à résoudre leurs problèmes.
Voilà.
Et donc les ONG viennent en appui.
En appui au gouvernement, oui.
C'est ça. Normalement, c'est ça la mission d'une ONG.
D'une ONG. Et il y a un auditeur doudou d'un mouvement qui dit que il y a beaucoup des chefs, des politiciens qui ont créé leurs propres ONG.
Et justement, c'est ça le problème qui se pose parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ONG qui se disent, moi, je suis ONG d'un parti politique. Je peux citer.
Bon, oui.
Je ne vais pas. Bon. Tu trouves ONG
PPRD,
ONG tel. Non. La plupart des fois, ce ne sont pas ces partis politiques qui ont créé ces ONG, mais ça peut être aussi des gens qui se disent que, étant donné que ces partis politiques ont des moyens, ces partis politiques ont le pouvoir, en créant notre ONG, entre guillemets, nous pouvons avoir l'allégeance de ces partis politiques. Et dans la loi,
des agendas cachés.
Il est interdit à une ONG d'avoir une connotation politique. Et quand tu es membre d'une ONG, tu peux être dans un parti politique, ça ne s'exclut pas, mais que ton parti ne puisse avoir aucune influence dans l'ASBL. C'est une des obligations de toutes les ASBL du monde.
Voilà.
Il a dit que les Chinois ont créé des ONG
en Boujimaï. C'est Doudou qui nous l'a dit. Hein.
Ça, je ne sais pas, nous n'avons pas de preuves. Et donc, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Voilà. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore eu des preuves. Il est question d'aller voir.
Peut-être qu'il veut dire que les étrangers peuvent créer des ONG au niveau local ici.
Il y en a beaucoup ici. Nous avons des ONG. Et des ONG étrangères, mais qui travaillent dans le pays pour aider le pays à surmonter ses problèmes. Il faudra qu'on sache quels sont les objectifs de ces Chinois en créant ces ONG. Et ça, c'est le rôle de la société civile de
Mbujimaï. Ouais. Eric Mutuanga nous appelle, il est dans les secteurs de Rwenzori, au nord Kivu, et Dieudonné nous appelle des Arou en province orientale. Eric, on commence avec vous, bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute depuis Mutuanga.
Oui, merci beaucoup Radio Okapi. Moi, j'ai des préoccupations. Ma première préoccupation est celle-ci. J'aimerais demander à l'éditeur quel est le rôle capital d'une ONG dans la République démocratique du Congo. Et c'est que la deuxième question est celle-ci. Qui peuvent organiser l'ONG dans notre pays? Parce qu'il y a aussi des gens qui organisent des ONG, mais pendant qu'ils ne sont même pas appelés à organiser une ONG.
D'accord, merci Eric. Dieudonné, vous êtes à Arou, en province orientale. Bonjour.
Bonjour la Radio Capi, bonjour tous les auditeurs.
On vous écoute.
Ah oui, j'ai des questions que je voudrais demander à notre invité du jour. Et la première, c'est de savoir une différence qui existe entre INDE, Initiative Locale de Développement, ONG, Organisation Non Gouvernementale, ASBL, Association Sans But Lucratif.
D'accord.
Et la seconde question est celle-ci. Que dire des personnes qui organisent des associations et qui, à des fois, nomment ces associations comme des ONG, et par la suite, on voit que ces associations ont un caractère personnel avec des intérêts individuels. Merci.
Bien, merci. Adieu donné depuis Yarou. Noël Mukendi, vous êtes à Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur l'invité, et ainsi que l'invité du jour.
Bien, c'est madame l'invité aujourd'hui. On vous écoute, Noël.
Oui, c'est bon. J'ai une préoccupation concernant le sujet du jour. Je voudrais demander à l'invité, est-ce que les coopératives d'épargne de crédit peuvent être entendues comme une ONG?
Les coopératives d'épargne et de crédit sont-elles...
Oui.
Vous voulez savoir si elles sont des ONG ou... Voilà.
Oui, puisque ce sont des groupements de personnes à capital variable, dotés de la personnalité juridique,
D'accord. Merci Noël. Une autre question? Non? C'est la seule question.
Non,
hein?
Non, je n'ai qu'une question à poser à l'invité.
D'accord, merci. Aloïs Sakaji nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama. Bonjour à madame Brigitte, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute Aloïs.
Merci pour la parole. Je n'ai que deux petites questions à poser à madame l'invité. La première question est celle-ci. Madame Brigitte a émis un aspect dans la définition de l'ONG selon lequel l'ONG est en déconnexion.
Pardon, vous pouvez-vous répondre?
Je dis, madame Brigitte a émis un aspect selon lequel l'ONG est en déconnexion avec le gouvernement.
Oui.
Alors, je m'explique. Le mariage qu'il y a entre une ONG et l'État, lorsque le statut d'une ONG doit obligatoirement être notarié. Autrement dit, pourquoi l'État intervient-il dans les affaires de l'ONG? C'est mes questions. Et la deuxième question, la dernière, est celle-ci. Quelle est la structure organisationnelle exigible pour une ONG et les tâches attribuées à chaque niveau dans la hiérarchisation? Merci, à vous l'antenne.
Merci, on reprend l'antenne. On reprend la parole à Loïs, merci. Madame Brigitte, vous avez plusieurs questions des auditeurs. Alors, vous allez répondre à leurs préoccupations.
Merci beaucoup, Jordi. Franchement, aujourd'hui, on a eu vraiment beaucoup de questions.
Oui, bien sûr.
Il y a eu une question sur laquelle on n'a pas répondu par rapport à Benjamin Bizouri, qui est appelé de Bukavu.
Voilà.
Il avait dit que là où il y a plusieurs ONG, ce sont eux qui alimentent la guerre. Je crois que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune relation entre une ONG et la guerre. Ça,
on signale souvent qu'il y a beaucoup de ONG dans les zones en conflit, comme à l'est du pays, à Bukavu,
justement, il y a plusieurs ONG dans les zones en conflit pour la simple raison que dans les zones en conflit, il y a beaucoup de gens qui sont dans les problèmes et qui nécessitent assistance. Et voilà pourquoi on remarque que dans des zones en conflit, il y a plusieurs ONG qui sont là. Parce que, comme j'ai eu à le dire dans la définition, c'est qu'une ONG se crée pour résoudre le problème qui se pose dans une communauté.
Oui.
Et dans le milieu où il y a la guerre, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans la communauté. Nous pouvons savoir l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins, l'accès même à la nourriture, ça pose problème. Et en ces moments-là, il y a des organisations qui sont
internationales.
Là, la plupart des fois, ce sont des organisations internationales
qui
interviennent pour aider ces gens-là qui sont dans le problème.
Mais il a révélé que certaines organisations ont des agendas cachés, viennent peut-être pour les minerais
Je ne peux pas les nier. Il y a plusieurs organisations qui ont des agendas cachés. Et alors là, je me dis que c'est à la population, à la communauté d'ouvrir les yeux et aussi au gouvernement. Et là, je saute directement à la question qui vient de nous autres poser. Quelle est la corrélation? Je crois que c'est Monsieur Aloïs de Kananga qui a posé la question, que j'ai dit qu'il y a une déconnexion totale entre une ONG et le gouvernement.
C'est ça.
Et je l'affirme, et je le confirme. Une ONG ne peut pas être inféodée au gouvernement. C'est une organisation non gouvernementale.
Alors, il a bien expliqué, c'est par rapport au statut.
Par
pourquoi
rapport
il faut
statut,
aller
justement,
pour
c'est
avoir
là où je voulais
notariés.
En venir.
Oui.
Ça doit obligatoirement avoir un statut notarié parce que c'est le gouvernement qui réglemente la vie de tout le monde dans un milieu donné. En RDC, c'est le gouvernement de la RDC qui doit réglementer tout. Ce qui est la vie des ONG, des associations, des partis politiques, tout est réglementé par l'État. Quand on notarie, cela veut dire que le gouvernement vous donne l'autorisation de fonctionnement et il reconnaît officiellement votre existence. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas une reconnaissance officielle. C'est comme le mariage. Le gouvernement n'a rien à voir dans un couple, mais il reconnaît qu'il y a deux personnes qui se mettent ensemble. À partir du moment où ils ont été à la commune, on leur donne l'acte de mariage. Et voilà le rôle du gouvernement. Et en ce moment-là, il réglemente aussi. Même s'il ne s'ingère pas dans le couple, mais il réglemente parce que si tu tapes ta femme, demain tu peux avoir le problème avec la police. C'est la même chose avec les ONG.
D'accord. Alors avant de continuer, on va accueillir un autre auditeur. Alphonse Boudril, depuis Ngbokolo, en province orientale. Bonjour Alphonse.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité aussi. J'ai quatre questions plus. Je vais terminer par un témoignage. La première question d'abord, c'est combien de personnes peuvent former une ONG ou une ONGD? Deuxième question, quels sont les documents à obtenir auprès de quelle instance? Ça, c'est la deuxième question. La troisième, peut-on démarrer des activités d'une ONG ou une ONGD sans autorisation d'une autorité quelconque? La quatrième question, la dernière, quel est le rôle de l'Assemblée générale dans une ONGD? Alors, je termine par mon témoignage, comme je l'ai dit. Vous savez, je dis que nous avons créé une ONGD qui s'appelait et qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui Programme Développement Rural, qui est créé au centre des négociations d'Ingokolo. Alors, malheureusement, un des membres est devenu maintenant politicien. Il a récupéré cela depuis le mois d'octobre 2013. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il nous a remplacés. Donc, nous qui étions des fondateurs de cette ONGD-là, nous sommes tous remplacés par ses plus proches, donc les membres du parti politique.
C'était lui l'initiateur, vous voulez dire?
Non. Nous avons été ensemble, nous avons créé ça ensemble. Maintenant, comme il est devenu un homme politique, donc il est devenu député, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il a derrière cela. Il est venu juste à un moment donné pendant les vacances parlementaires dernières ici. Donc il a remplacé tout le monde par maintenant ses suppléants et ses proches. Alors pour le moment, c'est devenu vraiment une affaire de politique. Alors nous nous sommes rendus compte après que le programme de développement rural, donc le PDR, c'est le PPRD qu'on a manipulé vraiment. Parce que quand vous entrez dans le mot PPRD, il y a aussi le PDR inclus dedans. Alors je voulais demander à notre
conseiller
de conseil qu'elle peut nous prodiguer. Parce
D'accord.
que nous ne sommes pas vraiment à l'aise.
D'accord. Chris Bandé nous appelle de Colouisi. Bonjour.
Bonjour, M. Kachama. Je salue aussi Mme Brigitte, notre invitée.
On vous écoute, Chris.
Ok, j'ai une question et une petite préoccupation. La première question, c'est... La dame a défini l'ONG ainsi que l'association. Au niveau de l'ONG, elle a dit que l'ONG a comme objectif d'aider une communauté. Alors que l'association, c'est lorsque les gens se réunissent pour leurs propres intérêts. Mais, lorsque nous parlons de l'ASBL, c'est une association sans but lucratif. Comment se fait-il que dans une association où tout le monde cherche ses intérêts, mais dans l'ASBL, il n'y a pas un intérêt? Là, c'est ça que je voulais demander.
D'accord, merci Chris.
La question est celle-ci. La question est celle-ci. Dans les pays hautement développés, existe-t-il des ONG comme ici en Afrique?
D'accord, merci. Dans les pays développés, okay, est-ce qu'il y a, il existe aussi des ONG comme chez nous, Madame Brigitte?
Oui, en tout cas, je me demande par où je devais commencer. Pour répondre, j'aimerais bien répondre à la question de Dédonné de Harou, qui avait demandé la différence entre une ILD, une ONG, et une ASBL. Mm-hmm. Ce que je vais dire, c'est que l'ASBL, c'est le groupe de tout. C'est là où se retrouve même une église, c'est une ASBL. Selon la loi 004 du 2 avril 2004 pour la RDC qui réglemente toutes les ASBL. Une ILD est une ASBL. Une ONG est une ASBL. Donc, la différence résiderait non pas entre ASBL, ONG, ILD, mais plutôt entre ILD et une ONG. Parce qu'une ILD, c'est une initiative locale de développement, c'est une association.
Ce n'est pas une ONG.
Ce n'est pas une ONG, c'est une association.
D'accord.
On peut l'appeler comité de développement, comité local de développement, initiative locale de développement, et tout ça, ce n'est pas une ONG.
Alors, par rapport à la question de cet dernier auditeur, qui dit une association, vous avez dit les gens travaillent pour leur propre intérêt, mais dans une ONG, pouvez-vous clarifier encore plus?
Justement, j'ai dit ceci. Une association, les gens travaillent pour leurs propres intérêts. Parce qu'il a demandé, maintenant, j'ai dit que l'ASBL, on ne cherche pas d'intérêt. J'ai bien dit, c'est l'intérêt économique. C'est-à-dire, on ne cherche pas à faire des activités, par exemple, les activités commerciales, par exemple, que cela soit l'objectif primordial. C'est-à-dire quoi? J'ai créé une ONG parce que je voudrais ouvrir un magasin étant donné que les ASBL, en général, ont la possibilité d'avoir l'exonération, et donc moi je vais créer une ASBL pour commencer à vendre, pour créer de magasins où je vais commencer à vendre des articles pour maximiser les profits. C'est contraire à l'esprit des ASBL.
Comme ça, j'aurai des exonérations, je ne vais pas payer la douane et puis je fais beaucoup de profits.
C'est vraiment contraire à l'intérêt des ASBL. Mmh. Une ASBL, quand j'ai dit qu'il cherche le profit, en fait, le bénéficiaire pour une association, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui bénéficient de l'association. C'est-à-dire quoi? Nous sommes une association. Nous voulons créer un pont. OK? Mmh. C'est parce que nous vivons dans un milieu que nous avons supposé être enclavé et nous voulons jeter un pont pour que nous puissions désenclaver notre propre milieu. Et qui en seront les bénéficiaires? C'est nous qui allons jeter les ponts. Mmh. Tandis qu'une ONG qui veut jeter un pont pour un village, ce n'est pas l'ONG qui en est le bénéficiaire, mais c'est la communauté qui vit dans ces villages. D'accord. Et dont le pont appartient. C'est ça la différence.
D'accord. Alors Benjamin Bizuri a posé la question de savoir est-ce qu'une mutuelle de santé est une ONG?
Une mutuelle de santé n'est pas une ONG, mais c'est une ASBL. C'est une association où les gens se mettent ensemble pour résoudre leurs problèmes de santé.
D'accord. Et puis Noël a posé la question de savoir si les coopératives d'épargne sont aussi des ONG.
Ils ne sont pas régis par la même loi. Il y a une loi spéciale qui régit les coopératives d'épargne et de crédit. Mmh. Ce n'est pas la loi 004 sur les ONG qui les régit. Donc ça n'a rien à voir.
Une coopérative, c'est pas une ASBL.
C'est à but lucratif. C'est à but lucratif, c'est commercial. Mmh. C'est commercial. Quand bien même, ce sont les membres qui en sont bénéficiaires. Mais ils mettent leur argent, ils regardent combien de bénéfices ils ont perçu, oui, par rapport à tout ce qu'il y a comme taux d'intérêt et tout ça. Mais dans une ONG, non. C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Alphonse dit, combien de personnes doivent être à la création, doivent créer une ONG?
Au niveau de la loi 004, c'est 7 personnes. Au niveau de la RDC, absolument, c'est 7 personnes. C'est la RDC, le Rwanda, les Burundi, parce qu'ils sont régis par la même loi, c'est 7 personnes. Mais ailleurs, c'est 3 personnes. En RDC aussi avant, c'était 3 personnes. Mais depuis 2004, on a changé, c'est 7 personnes.
Donc dans les statuts, on doit retrouver les noms de ces 7 personnes.
Absolument, qui sont considérés comme les fondateurs de l'ONG.
D'accord.
Et il a demandé aussi par rapport aux documents à obtenir.
À obtenir, oui.
Il y a d'abord l'autorisation de fonctionnement que l'ONG devra obtenir dans son milieu d'implantation, là où se trouve son siège social. Il y a le F90. Le F92, c'est une autorisation provisoire qui est obtenue au niveau du ministère de la Justice, qui vous reconnaît le droit de fonctionner en attendant que vous puissiez avoir la reconnaissance juridique, la personnalité juridique.
Oui.
Ce sont les deux documents très importants qu'une ONG doit avoir.
Et les statuts notariés également.
Non. Avant d'avoir l'autorisation de fonctionnement, vous devez avoir les statuts. C'est pourquoi, parce qu'il a demandé les documents qu'il faut obtenir. Mmh. Il n'a pas demandé les documents qu'il faut avoir. Et donc, la première des choses, c'est avoir les statuts. Les statuts qui est la carte d'identité de l'ONG.
Et le règlement d'ordre intérieur.
Et le règlement d'ordre intérieur. Et le statut devra être notarié, c'est-à-dire reconnu par le gouvernement. Mmh. Et c'est à partir du moment où le statut a été notarié qu'on va avoir maintenant l'autorisation de fonctionnement qui va vous amener à demander la personnalité juridique.
Et Alphonse demande si une ONG peut fonctionner sans un document.
C'est de l'anarchie. C'est comme une personne qui n'a pas sa carte d'identité. En tout cas, si je ne peux pas encourager, parce que à partir du moment où vous commencez les activités, il faut que vous existiez. Et ce sont ces documents, les statuts notariés, l'autorisation de fonctionnement, qui vous donne cette autorisation-là de fonctionner et qui vous reconnaît de pouvoir, qui vous reconnaît le droit de pouvoir travailler dans un milieu.
Et Alphonse veut savoir quel est le rôle de l'Assemblée Générale.
Le rôle de l'Assemblée Générale, c'est le rôle de décision. L'Assemblée Générale, c'est comme le cerveau dans un corps. C'est l'Assemblée Générale qui donne des injonctions sur la vie même d'une ONG, sur la vie même d'une association. Donc, l'Assemblée Générale, c'est le cœur même
d'une ONG.
Et il y a quelqu'un qui a demandé par rapport aux organes. Oui. Et donc là, j'en profite aussi pour répondre. En fait, pour les structures d'une ONG, d'une ASBL, sont au nombre de 3. Il y a d'abord l'Assemblée générale qui regroupe tous les membres de l'ONG. Mmh. Les membres adhérents, les membres effectifs,
les membres sympathisants,
tous les membres. Il y a les conseils d'administration. Mmh. Les conseils d'administration, c'est un groupe de personnes qui a été choisi par l'Assemblée générale pour suivre le fonctionnement, pour voir si toutes les lois, c'est-à-dire les statuts, le règlement intérieur et tous les documents sont respectés et si ce qu'ils se sont dit au niveau de l'Assemblée générale, donc, c'est-à-dire la ligne de conduite, a été respectée.
Et le conseil d'administration est composé de combien de personnes?
Le conseil d'administration est composé normalement de 5 à 9 personnes maximum.
D'accord.
Ça dépend de la taille d'une association. Mais il faut obligatoirement que ce soit un nombre impair pour faciliter les votes.
Et j'imagine qu'il faut qu'il y ait aussi un secrétariat général?
Pas nécessairement.
Ou une coordination?
Pas nécessairement. Le secrétariat exécutif, c'est le troisième organe d'une organisation. Mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi je dis ça? Parce que les deux organes, l'Assemblée générale, le conseil d'administration, dans le conseil d'administration, il faut ajouter aussi à côté du conseil d'administration, la commission de contrôle. Ce sont des organes qui travaillent bénévolement. On ne le paye pas.
Mais peut-être que l'ONG peut avoir un personnel d'appoint.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. À partir du moment où vous avez assez de moyens, en ce moment-là, vous pouvez mettre en place le troisième organe qui est le secrétariat exécutif. Les membres du secrétariat exécutif doivent être rémunérés. Ils ont un salaire, ce sont des salariés. C'est pour cela que moi, je conseille toujours, pour les petites ONG qui viennent de commencer, pour les associations, vous ne pouvez pas mettre le troisième organe tant que vous n'avez pas eu de moyens conséquents pour payer.
D'accord. Madame Brigitte, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci, c'était intéressant. Alors, peut-être que les auditeurs peuvent vous appeler après l'émission pour
merci beaucoup.
Continuer la discussion.
Je suis joignable sur 0421 52 15 326. 081 52 15 326 et 09 90 58 85 40.
Madame Brigitte Kanika, spécialiste en développement, merci.
Merci beaucoup.